Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des évaluations des relations familiales. C'est un cours préparé par le professeur Henry Rayenga, le président de CLI, Christian Leaders Institute. Il est professeur, il nous a donné ce cours à présenter sur les évaluations des relations familiales. Alors, chaque comportement a une cause antérieure, c'est-à-dire la personne qui vient devant vous, c'est toute une histoire. La personne qui vous parle n'est pas seulement quelqu'un qui dit des mots, mais c'est aussi quelqu'un qui a toute une histoire derrière. Alors, donc, la communication, ce qu'on appelle communication alternative, communication non verbale, hein, c'est-à-dire, quand les gens viennent vers nous, les paroles qui sortent cachent des actions qui sont déjà là. Les gens disent plus que ce qu'ils ne disent. C'est ce qu'on appelle la communication non-verbale. C'est-à-dire, les gens, leur façon, leur expression, contiennent aussi un message caché que toi, tu as la responsabilité de décoder s'il faut. Les actions parlent plus fort que les mots. C'est-à-dire, ce que les gens posent comme action signifie beaucoup plus que ce qu'ils disent. Et ensuite, les événements qui précèdent ou suivent la communication présente ouvrent ou ferment la communication future. Alors, ici, ce sont des principes très importants et j'aimerais aller un peu doucement pour que nous puissions bien les saisir dans le contexte du dialogue pastoral. Quand les gens viennent vers nous, il faut toujours le savoir, hein, il faut toujours comprendre. Les gens disent plus que ce qu'ils ne disent par leur attitude. Et encore, les gens disent ce qu'ils disent par ce qu'ils font pendant qu'ils sont devant vous ou pendant qu'ils ne sont pas là. Et ce que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous conduisez le dialogue pastoral déterminera si la personne reviendra ou pas, si le dialogue sera un succès ou non. Donc, les événements qui précèdent ou suivent la communication présente ouvrent ou ferment la communication future. Alors, dans le contexte des familles, les familles développent des styles de communication particuliers qui répondent à leur tempérament. Chaque famille a un langage codé. Les malentendus créent des barrières aux communications futures. J'ai dit, c'est très important, parce que dans chaque famille, les gens parlent d'une certaine manière, et puis quand il y a maintenant des malentendus au niveau de la famille, la communication ne passe plus. Et puis, sixièmement, il y a ce qu'on appelle les génogrammes familiaux, c'est-à-dire les arbres généalogiques, ont une incidence sur la communication entre membres de la famille. C'est très important. Les gens sont surtout, souvent, le reflet de leur patrimoine génétique. Il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des gens qui parlent moins, il y a des gens qui ne parlent pas du tout. C'est ta responsabilité quand quelqu'un vient vers toi de savoir est-ce que celui-ci c'est un parleur, celui-ci c'est un timide, celui-ci c'est quelqu'un qui se contrôle trop, ou encore c'est quelqu'un qui sait dire ce qu'il sent, ou encore c'est quelqu'un qui est inhibé plutôt, qui retient ce qui est dans son cœur, et puis toi, il faut que tu creuses, et que tu creuses, et que tu creuses, avant d'être en mesure de vraiment leur venir en aide. Et puis, il y a les règles externes aux règles de la famille, qui influent aussi sur les communications entre membres de la famille. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la famille, il y a des règles que tout le monde comprend, qui ne sont peut-être pas jamais écrites, mais qui existent. Tu ne t'assois jamais sur la chaise de telle chaise parce que c'est toujours le père qui s'assoit là-bas, ou encore tu ne marches pas sur tel endroit parce que c'est ici et cela. Ça, ce sont des règles qui ne sont pas écrites, mais qui existent dans les familles. Mais il y a aussi des règles qui sont extérieures à la famille, qui influent dans la communication entre les membres de la famille. Alors, parlons maintenant de la face cachée, ou ce qu'on appelle les dessous de la communication ou des conflits. D'abord, vos actions extériorisent vos pensées, vos sentiments et croyances cachées. Je répète, vos actions extériorisent vos pensées, vos sentiments et croyances cachées. Ce que vous faites, c'est en réalité ce que vous pensez. Vous êtes votre pensée, vous êtes vos croyances, vous êtes vos ce que vous sentez. Et cela est très important. Par exemple, je donne un exemple bizarre. Une grossesse chez un adolescent, une adolescente, parce qu'un adolescent ne peut jamais être gros, enceinte, une grossesse chez une adolescente, par exemple, peut exprimer des pensées, sentiments, des croyances cachées de toute une famille. J'explique. Il est des familles où les jeunes filles sont brimées, se sentent mal à l'aise. Et la seule façon de sortir, la jeune fille va se précipiter, aller avec n'importe qui pour qu'elle devienne enceinte et s'en aille. Vous voyez la grossesse simplement, mais ce n'est pas une grossesse. C'est une rébellion. C'est une façon de fuir le contexte difficile de la famille. Mais il y a encore, dans d'autres cas, une grossesse qui est plutôt le signe du désordre. En fait, une grossesse en dehors du mariage, c'est toujours un message que la jeune adolescente envoie à elle-même, aux parents, à la famille et à la société. Parce que ce que les gens font reflète ce qu'ils croient, ce qu'ils sentent et ce qu'ils veulent communiquer aux autres. Chaque membre de la famille a une compréhension différente de la famille. Chaque type de personnalité a une compréhension différente de la communication verbale et non-verbale. Donc, chaque membre de la famille a sa façon de concevoir les choses. Chaque type de personnalité a sa façon de s'exprimer. Alors, il faut adapter votre style de communication à la personne à qui vous parlez. Chaque personne ne réfléchit pas de la même manière. Chaque personne ne voit pas le monde de la même, avec les mêmes lunettes. Il faut que toi qui parles, tu sois en mesure d'adapter. Bon, j'ai obligé plutôt. Il faut que toi qui écoutes, tu sois en mesure d'adapter ton écoute par rapport à la vision du monde, comme on dit, la cosmologie de la personne qui est en train de vous parler. Alors, les expériences de la vie. Il est des bonnes et mauvaises expériences de la vie. Toutes ces bonnes et mauvaises expériences de la vie influent sur la façon dont nous voyons les gens et communiquons avec eux ou elles. Notre propre expérience sert de lunettes sur la façon dont nous, dans nos relations interpersonnelles. Les connaissances, la connaissance de soi aussi favorise la compréhension des autres. Si nous nous connaissons nous-mêmes, nous avons facile à communiquer avec les autres. Mais si nous sommes des inconnus à nous-mêmes, nous ne comprendrons jamais les autres. Et puis, une mauvaise connaissance de soi rend difficile la communication avec les autres. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? Et puis, comment avoir des relations interpersonnelles, des relations sociales ou familiales qui soient bonnes? Alors, parlons des émotions. D'abord, premièrement, c'est que les émotions sont bonnes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le monde entier aime des gens qui sont impatients, c'est-à-dire qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'émotions. On aime des gens calmes, on aime des gens tranquilles, on aime des gens qui ont la maîtrise de leurs émotions. C'est bon, mais dans la plupart des cas, ceux qui ne manifestent pas leurs émotions les cachent parce que ces émotions enfouies deviennent comme des bombes qui ont été larguées, qui n'ont pas explosé. Et quand les circonstances de la vie deviennent difficiles, alors ces gens explosent. Donc il faut d'abord dire que les émotions sont bonnes, c'est Dieu qui les a créées. Les émotions toutefois doivent être équilibrées parce que les émotions, si, qui ne sont pas contrôlées, deviennent des problèmes. Chaque personne doit apprendre à comprendre le langage émotionnel de base de sa propre vie et de la vie des autres. Alors, parlons de la fonction des émotions. D'abord, comprendre le message caché derrière chaque émotion. Parce que chaque émotion veut dire quelque chose. Chaque chose que nous sentons cache derrière quelque chose d'autre. Parlons de la première émotion qui est la colère. Quels sont les aspects positifs de la colère? D'abord, la colère nous aide à défendre une cause juste quand quelque chose n'est pas bien. Il ne faut pas simplement rester comme ça, passif et ne rien faire. Il faut, la colère nous aide à défendre une cause juste. Et puis la colère sert de système d'alerte des limites humaines. Quand nous atteignons notre limite, notre patience, nous avons affaire à la colère. Ensuite, la colère sert de système d'alerte hormonale. Voilà les aspects positifs de la colère. Celui qui n'est jamais en colère, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Mais il y a aussi l'aspect négatif de la colère. C'est l'externalisation des blessures émotionnelles. Celui qui se fâche cache en lui des blessures passées et au lieu de les résoudre, la personne explose de colère. C'est le début de l'amertume et l'abus des autres. Oh mes amis, la colère crée l'amertume. Et l'amertume amène la violence contre les autres. Ceux qui sont blessés blessent les autres sans faute. Ceux qui sont blessés blessent les autres. Ceux qui sont qui ont été abusés ont facile à abuser les autres. Donc c'est l'aspect négatif de la colère. Alors il faut apprendre à juguler la colère, non pas en l'oubliant ou en essayant de l'enfouir dans son âme, mais plutôt, il faut la présenter au Seigneur Jésus-Christ. Parlons de la jalousie. Quels sont les aspects positifs de la jalousie? C'est d'abord besoin d'affirmer sa personnalité. La jalousie, c'est une façon pour nous de dire que nous existons aussi. Mais l'aspect négatif de la jalousie, c'est que la jalousie favorise l'hostilité et l'obsession. On est tellement jaloux des autres qu'on ne peut s'arrêter de penser mal d'eux et de chercher à leur nuire. Alors, il y a une troisième émotion, c'est la culpabilité. Quels sont les aspects positifs de la culpabilité? C'est que les remords sont utiles parce qu'ils sont souvent un point de début, un commencement du pardon. Celui qui n'a jamais de remords ne se repentit jamais. Mais la culpabilité nous aide aussi à nous repentir. Mais il y a l'aspect négatif de la culpabilité, c'est que la culpabilité pousse à la dureté contre soi, et puis elle entraîne la dépression et le désespoir. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui s'attaquent eux-mêmes tout le temps. Et je crois que le plus grand problème des chrétiens, ce n'est pas le manque de grâce. Le plus grand problème de la plupart des chrétiens, c'est l'incapacité de recevoir la grâce de Dieu. Les gens se sentent toujours coupables parce qu'ils ont difficile à accepter que Dieu pardonne, que Dieu est patient, que Dieu n'est pas là comme un policier pour chercher à nous créer des problèmes, mais au contraire que Dieu est là pour nous pardonner et nous donner la grâce. Et la culpabilité nous aide à nous repentir, mais il faut faire attention, il ne faut pas laisser à la culpabilité le soin de vous détruire émotionnellement en vous faisant porter le poids de vos péchés, pendant que Jésus est déjà mort et ressuscité pour ces péchés que vous continuez à garder ou encore pour cette culpabilité qui vous a affaibli. Parlons de la fierté. Alors la fierté, c'est l'aspect positif, c'est quoi? C'est la réalisation personnelle et puis le désir d'exceller, d'aller de l'avant. C'est cette fierté qui nous pousse à mieux faire. Mais la fierté est grave aussi parce qu'elle est négative, parce qu'elle amène l'égoïsme et puis il y a une haute considération de soi-même au détriment des autres. C'est seulement moi et moi seul et tout le monde doit m'adorer. La fierté, c'est très grave. Et puis il y a l'inquiétude. Et là, l'aspect positif, c'est que l'inquiétude, ce sont les préoccupations authentiques. Une personne sans inquiétude, ça n'existe pas. Il faut avoir des préoccupations authentiques. L'inquiétude crée le désir de protection. Tu ne dois pas seulement vivre comme s'il n'y avait rien. Attention, le monde est rempli de dangers et l'inquiétude t'aide à te protéger. Mais attention, l'inquiétude amène des peurs irrationnelles et paranoïa et puis étouffement des personnes que nous cherchons à protéger. Et c'est aussi la cause des maladies psychosomatiques. En haut, les parents sont toujours inquiets de leurs enfants. Chacun de nous veut le protéger du matin au soir, jusqu'au point où il est des parents qui ne veulent jamais que leurs enfants sortent pour aller commencer leur vie ailleurs. Ils les emprisonnent par leur amour excessif, créé par l'inquiétude. Même si mon enfant s'en va, sans moi, mon enfant ne peut pas s'en sortir. Oh, mais écoutez, la Bible dit, il faut que l'homme quitte, hein, et qu'il s'en aille. Et puis, il est important que nos enfants ne sentent pas que nous les étouffons par nos inquiétudes, par notre désir de les protéger au-delà de ce qui est normal. Et puis, quelles sont les fonctions des émotions? Au lieu de la réponse simpliste, dominez-vous, non, encouragez les autres à apprendre à vivre leurs émotions positivement d'une manière équilibrée. Apprendre à marcher avec Dieu, pour vivre une vie émotionnelle équilibrée. C'est Dieu qui nous stabilise émotionnellement parce que chaque être humain est fragile. Notre nature pécheresse nous rend fragiles émotionnellement et nous trouvons notre force en Dieu lui-même qui nous porte. Cas pratique. Le cas de nouveau marié. Le mari, lui, il a souvent tendance à enterrer ses émotions. Mon mari, comment tu vas? Très bien. Comment c'était le travail? Très bien. Comment vas-tu? Très bien. Il ne veut rien dire. Tandis que la femme a des émotions, d'une manière générale, transparentes. La femme veut mettre les choses dehors, et puis les hommes se fâchent. Toi, c'est toujours dehors. Non, mais attention. On dit toujours qu'il y a une très grande différence, une fracture émotionnelle entre les hommes et les femmes. Nous avons des besoins émotionnels différents, nous réagissons aux émotions différemment, les hommes, par rapport aux femmes. Et dans chaque couple, il faut savoir qui parle beaucoup, qui ne parle pas, qui extériorise, qui n'extériorise pas, pour que vous soyez en mesure de balancer les choses et de vivre en paix.